Nous sommes de retour dans notre soirée musicale dédiée à l'église de la Madeleine et nous sommes toujours avec Michel Geoffroy, titulaire de l'orgue de chœur. Il est question des compositeurs pour orgue et vous allez entendre des sons. Nous sommes à l'intérieur de l'enregistrement avec de la vie autour, de la vie dans le micro, la vie de l'église de la Madeleine et vous en êtes témoin et c'est une soirée musicale en forme de documentaire. Donc vous pensez qu'ils écrivaient en fait dans ces endroits, dans les églises ou les cathédrales avec la notion du son, de l'acoustique.
La notion du son, de l'acoustique, oui. Et ben, le meilleur exemple, le plus célèbre ici, c'est Gabriel Fauré qui a été donc organiste sur cet instrument, maître de chapelle. Et
sur celui-ci, quand même.
Oui. Et les pièces qu'il a écrites, bon, le plus célèbre, le Requiem, qui est une des pièces du répertoire français les plus connues, a été composée. Non pas spécialement ici, enfin pour ici, même si elle a été créée ici, c'était une pièce qu'il a commencé à la mort de sa mère et il l'a terminée relativement rapidement à un moment donné. C'était une pièce en chantier en quelque sorte, pour les obsèques ici en 1888, je ne me souviens jamais du nom, oui c'est pour un monsieur Le Souffaché, voilà, je m'en souviens. Et effectivement là l'écriture vocale et même orchestrale, ou aussi instrumentale puisqu'on peut souvent on peut aussi facilement le jouer à l'orgue. Il correspond très bien à ces acoustiques un peu, non pas confuses, mais très apaisantes, où les sons peuvent s'en mêler. Mais là, tel que c'est agencé, c'est parfait. Ça correspond tout à fait à cette musique et c'est formidable.
correspond beaucoup d'ailleurs à l'acoustique de cette église. Il y a 8 secondes, je crois.
Il y a 8 secondes de réverbération quand elle est entièrement vide.
Et c'est presque scientifique parce qu'en fait, il faut avoir la conscience du son qui va partir et qui va se mêler à notre son pour l'harmonie. En fin de compte,
oui, c'est ça. Il y a ce genre de composition. Et je pense que les paroisses dans lesquelles travaillaient les organistes compositeurs ont influencé leurs œuvres. César Franck à Sainte-Clotilde a écrit une musique finalement très méditative et très, très intérieure. Et dans le même temps, vous avez Vidor, qui était aussi un grand musicien, à Saint-Sulpice, ou même Dupré à Saint-Sulpice, ont écrit des musiques très pompeuses, très démonstratives. Franck et puis un autre dont le nom m'échappe, c'est pas grave, ça commence déjà, qui était à Sainte-Clotilde. C'est pas grave. Donc on écrit des musiques beaucoup plus sereines en quelque sorte, et plus intérieures. Voulez-vous vous asseoir peut-être? Non,
non, je vous remercie, je vais poser mon sac.
Et donc là, oui, je pense que le lieu dans lequel on joue beaucoup influence pour la manière de composer, même le sentiment et même par rapport aux possibilités, ils finissent par avoir des réflexes sonores. Ils finissent par avoir des réflexes sonores qui font que on va composer pour ça.
Oui. Et vous, quand vous jouez, par exemple, évidemment, vous domptez en fait cet espace acoustique.
Non, je ne cherche pas à le dompter, mais à jouer avec, à le faire participer, à en profiter en quelque sorte. À faire souvent, malheureusement, des choses un peu superficielles, des musiques d'effet, quoi, où on peut faire des gros accords très forts, attendre, etc. On peut jouer sur l'acoustique. Non,
il faut
en profite.
Plusieurs années, j'imagine, pour connaître l'acoustique. C'est comme traverser des endroits invisibles avec qui on fait
plusieurs années. Alors effectivement, avec le temps, on acquiert un métier, des habitudes, une efficacité, disons, qu'on n'a pas tout de suite. Mais certains sont très rapides et d'autres un peu plus lents. Voilà. Je suis un peu dans cette deuxième catégorie. Il me faut beaucoup de temps. Mais il faut du temps quand même pour en profiter au maximum. Et d'ailleurs, on le voit, même certains grands récitalistes qui viennent pour les récitals ici ne sont pas tous à même de donner le meilleur de l'instrument. Voilà.
Oui, c'est ça. Il faut avoir cette sensation
et puis une habitude.
Alors la différence quand vous jouez à cet orgue-là et au grand orgue là-bas, on projette plus au grand orgue, j'imagine, comme on a la Madeleine devant soi, on a cet espace qui paraît infini finalement, avec des ombres, même la lumière peut jouer. Et ici, vous êtes dans un espace qui est beaucoup plus intime, je dirais,
oui.
Même
sacré, on peut dire
sacré,
que je suis dans le cœur. Avant, la console était juste sous le buffet, et donc c'était assez désagréable. L'ancien maître de chapelle avait mis un petit écran, et avec un écran, on a l'impression d'être dans une autre pièce, qu'on ne participe pas. Oui. Comme elle était mobile, on a fini par insister, puis maintenant elle est ici à demeure quasiment.
Oui, parce que c'est comme un peu travailler chez Disney.
Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça, oui, ce n'est pas. Et donc quand on joue ici, on ne joue pas pour la même chose que quand on est au grand orgue. Au grand orgue, on est là essentiellement pour faire du répertoire, un répertoire qui va accompagner la communion, ou bien sûr la sortie, ou éventuellement l'offertoire. On est bien sûr avec la liturgie, mais c'est un peu plus distant puisqu'on n'accompagne pas les chants, même si maintenant il n'y a pas l'orgue de chœur à toutes les messes, donc on accompagne les chants depuis les grandes orgues, même si ce n'est pas l'idéal. Et quand on joue ici, donc on est face au chœur, donc on est avec le célébrant en quelque sorte, et on est vraiment au cœur de la messe, quoi. Aux grandes orgues, mais comme on est plus loin, on est à une soixantaine de mètres, on est quand même un peu distant. En ce qui me concerne, je n'ai pas les mêmes sensations du tout. Non.
Vous préférez quel orgue?
Alors ici, on a deux instruments assez exceptionnels. Pour l'instant, parce qu'il y a deux autres chantiers d'orgue de chœur, mais le plus bel orgue de chœur de Paris, c'est celui-là,
Mais il y a un phénomène très curieux, c'est quand on rentre dans l'église, oui, et que l'orgue de chœur joue, tout le monde a l'impression que c'est le grand orgue. Parce que le son passe énormément et très bien.
Le son passe très bien. Le buffet de l'orgue ici est assez bas. Le son est porté par les murs qui sont sur les côtés. Et les grandes orgues projettent directement. Et les trois dômes font qu'il y a une réverbération. Alors l'avantage de ces dômes pour les grandes orgues, c'est que les attaques sont toujours assez douces. Il n'y a pas la violence qu'on a parfois à Notre-Dame de Paris avec les anges, etc. C'est toujours très doux, un côté confortable et chaleureux, voilà.
On pourrait l'écouter,
oui,
l'entendre.
Bien sûr, oui. L'orgue de cœur. Vous avez entendu le grand orgue,
oui,
bien sûr.
Oui, oui, oui.
Vous jouez le grand orgue le 7 juin.
Oui, je remplace François-Henri le 7 juin. Oui, alors, l'organisation ici, donc il y avait à l'époque, quand je suis rentré, le maître de chapelle qui s'occupait de l'ensemble vocal, l'orgue de chœur, donc avec un titulaire, et les grandes orgues avec François-Henri Houbard. Et cette organisation est restée quand le maître de chapelle est parti. Et aujourd'hui, donc, il y a un assistant aux grandes orgues, Olivier Perrin. Le titulaire est toujours François-Henri Houbard et je suis toujours à l'orgue de chœur. Mais on peut se remplacer en cas de besoin les uns les autres. L'orgue de chœur accompagne la messe maintenant du samedi soir. C'est tout pour l'instant. Et puis les grandes orgues le dimanche. Voilà. Mais il n'y a plus de messe à deux orgues comme il y avait avant. Quoi.
Sauf pour les fêtes exceptionnelles.
Oui, sauf les fêtes exceptionnelles ou quand il y a un chœur, ce qui est assez, assez rare. Quoi.
Donc là, vous vous installez.
Oui, alors, c'est un orgue qui est remarquable pour accompagner.
Je peux m'asseoir à côté de
vous. Oui.
J'ai de la chance.
Donc la console est mobile, elle peut même se déplacer et se mettre à la place de l'hôtel qui lui aussi est mobile, enfin qui est assez mobile malgré les petits problèmes de roue. On ne doit pas déplacer un hôtel, mais là pour les besoins de l'église, puisque la majeure partie de ses revenus ce sont des concerts, et sans les concerts, l'église, ne tiendrait pas, parce que les frais sont assez considérables. Et donc on peut déplacer cet instrument, le mettre là. Tout à l'heure, j'accompagnerai un chanteur pour des obsèques. Et c'est un orgue qui est fait au départ pour accompagner. L'orgue de chœur accompagne la psalette, en théorie. Et les grandes orgues ne font que diriger, si on peut dire, l'assemblée pour les grandes hymnes et jouer les parties purement musicales. Notamment la fameuse sortie qui était chère au 19e siècle, où on jouait des œuvres virtuoses, sonores, qui n'en finissaient pas. L'anecdote ici était que Fauré et Saint-Saëns ont travaillé ensemble. Ils improvisaient pour les sorties, des choses interminables. Et on disait qu'ils n'arrêtaient pas de faire des entrées en canon, des fugatos. On disait que la dernière voix n'était pas encore rentrée dans leur fugato, que le dernier paroissien était sorti depuis longtemps. Voilà. Et une autre anecdote de Fauré qui est beaucoup d'humour. Et il expliquait toujours à ses collègues que la Madeleine était très riche et très techniquement avancée, puisqu'il avait une soufflerie à alcool. Oui, et alors il me demandait comment ça fonctionnait, et il disait je viens avec deux bouteilles de vin, je les donne au souffleur. Voilà. Alors là, donc, c'est souvent pour accompagner, donc il y a des fonds très doux.
Dans toute la mécanique qui se met en place. Thank you.
parce qu'ils font un peu doux, idéal pour accompagner quoi, et créer des atmosphères, donc un peu faire des musiques un peu d'effet, si on peut dire. Voilà.
C'est une place sacrément privilégiée quand même, parce qu'on ressent vraiment tout le son de l'orgue.
Ah oui, et là, c'est très confortable de jouer puisqu'on a le son en direct. Oui,
et c'est comme, je dirais, quelque chose qui se réveille bizarrement.
Oui.
J'en ai presque les larmes aux yeux. C'est très fort la sensation.
Faire des choses très bien, des petites variations sur, par exemple.
On n'est plus sur un type de voix.
Oui, des flûtes. Pour les choses plus pointues, plus... Voilà.
Mais cet orgue de chœur est même doté d'un 32 pieds. Mmh. Ce qui est comme réservé qu'aux grands hommes. Oui.
Thank you. sont très bien accordés l'un à l'autre, donc les sons peuvent se mélanger. Il y a quelques pièces que l'on fait aux deux orgues, des grands chœurs dialogués, c'est-à-dire les grands chœurs, il y a des jeux d'anches qui sont un peu... qui sont opposés à des jeux de fond. Et voilà, donc les grandes orgues font tout ce qui est très sonore et l'orgue de chœur, bien sûr, reste un peu discrètement en dessous pour accompagner ou répondre de manière plus secrète aux grosses injonctions musicales données par les grandes orgues. Quoi.
Vous vous amusez parfois, vous dialoguez ensemble ?
Oui, pour certains concerts. Et à l'époque où il y avait l'ensemble polyphonique, il y avait toujours en réponse le Gloria et le Credo qui étaient alternés, assemblés, psalettes, si on peut dire. Et donc là, chacun accompagnait de manière plus ou moins audacieuse. Non ? Voilà.
Vous êtes un ange, Michel Geoffroy, quand on vous voit jouer. Ah bon, bon. Et cette église est un joyau. C'est...
Ah, ça nous donne la chance d'avoir deux instruments parfaitement entretenus et tout à fait uniques dans leur genre et dans leur qualité. Quoi. Très homogènes et très, très riches finalement de différentes sonorités. Très riches. Et toutes ces sonorités ont la particularité, contrairement à des orgues baroques où sont très, au son très défini, très, comment dire, qui ont tous un rôle particulier, qui ne se mélangent pas forcément très bien ensemble. Ici, on peut jouer tout un peu séparément, des fonds très doux, comme vous avez entendu, et qui peuvent s'adjoindre au tutti sans heurts, ça paraît naturel. Quoi, voilà.
Il y a une vraie part d'improvisation, si j'ai bien compris. Vous pouvez à tout moment changer de timbre, non ?
Oui, bah pour les accompagnements, les nuances à l'orgue se font en changeant évidemment les timbres et surtout le nombre de jeux de dynamique. Quoi. Un seul jeu est plus doux que deux, que trois, etc. On rajoute les jeux pour faire les nuances et on les enlève pour diminuer. Il y a aussi une boîte expressive, c'est-à-dire certains jeux sont enfermés dans une caisse. Là, on la voit, elle est à l'intérieur de l'orgue. Pardon. Je mets ça sur le... Donc la boîte là est ouverte, je la ferme. Non, ensemble.
Vous la fermez avec la pédale, n'est-ce pas ? D'accord.
Ah, oui.
C'est toute une manipulation, en fait. C'est
oui. Alors, elle est encore plus complète aux grandes orgues, puisqu'il y a quatre claviers là-haut, etc.
Oui.
C'est un instrument à clavier, bien sûr, qui se joue à partir de clavier. Est totalement différent du piano, hein, ça.
La technique, oui.
C'est assez différent. Le piano est, on peut dire, plus artisanal, puisque on est entièrement, responsable des sonorités que l'on fait. Alors, évidemment, il y a le son du piano particulier en fonction des pianos, mais en fonction de la frappe, en fonction du contact, de la touche, etc., on a différents types de timbres et d'attaques qui jouent plus encore que sur un orgue. Puisque là, en plus, sur ces instruments-là, le toucher est électrique. Donc là, on n'a pas la mécanique, on ne sent pas la mécanique, c'est juste un contact. Oui, il est très doux, allez-y. Allez-y.
Oui, c'est vrai.
T'as vu ? C'est très doux.
Oui, là, il est très doux. Les grandes orgues sont assez douces aussi, et très confortables à jouer.
Alors, ça change du piano parce qu'on n'a pas ce double échappement.
On n'a pas cet échappement, oui. Alors, il y a des orgues qui ont des mécaniques très, très agréables, surtout les orgues qui sont en fenêtre, où les claviers sont rentrés dans le buffet. Donc là, on est la tête vers le buffet, et la touche se prolonge par un... quand la touche se prolonge et par un mécanisme très simple, une vergette suspendue, on appuie et on ouvre la soupape directement. Et là, on a un contact dans ces cas-là directement avec la soupape, ce qui permet d'avoir un toucher de clavecinistre très délicat et très agréable, puisqu'on est vraiment dans l'instrument. Ici, c'est électrique pour les besoins de la mobilité de la console et puis même pour.
Alors, tout passe par.
Par un câble qui est situé derrière et qui passe au-dessus de la porte. On voit pas. C'est un tout petit câble. Le premier. Ah, c'est tout petit, oui. Ce sont des. C'est un câble optique. Avant, il y avait un gros câble électrique, si on peut dire, qui combinait toutes les. Donc, c'était énorme. et ça a été changé il y a maintenant 5-6 ans. Voilà. C'est plus confortable, beaucoup plus, un peu plus fragile, il faut faire attention. Manipulation, puis comme tout le monde le manipule, finalement, il y a parfois des petits accidents. Non, c'est un instrument, on peut même jouer du répertoire qu'on fait au grand orgue, mais pas tout, il manque quelques anges graves pour pouvoir faire des grandes pièces, les grands finales de symphonie romantique. Quoi qu'on peut en jouer certaines, mais elles ont beaucoup plus évidemment d'effet aux grandes orgues. Mais sinon, on peut jouer absolument tout quand même.
Une musique, vous pensez qu'elle se marierait avec toute la discussion que nous venons d'avoir?
Pour moi, la plus extraordinaire, ce serait un extrait du Requiem de Forêt, enfin, la belle ouverture du Requiem de Forêt. C'est un peu grave et méditatif, pour le coup. Et il est possible. Alors, le Requiem et le Kyrie, c'est un petit peu long, peut-être, mais c'est quand même la pièce la plus emblématique de la Madeleine, quoi. Et c'est sublime, c'est une des plus grandes musiques, c'est une des plus belles musiques du répertoire français, enfin, ouais, je trouve.
Thank you.
Michel est un très très bon pianiste.
Oui, j'ai. Oui. Oui, nous avions une connaissance commune. J'ai suivi pendant 20 ans les cours d'un professeur extraordinaire, Colette Zera, qui n'habitait pas très loin d'ici d'ailleurs. Personnellement, donc, au piano, un triptyque très, très ordinaire, ce serait Beethoven, Bach et Chopin. Donc, ça n'a rien d'absolument révolutionnaire. Même si en ce moment je fais plutôt du Prokofiev. Et du Debussy, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour me représenter moi, alors que ce serait du Bach, ou Bach Vivaldi même, le concerto en la mineure. Oui. Il y a ce côté très, très joyeux, très dynamique, que Bach a merveilleusement transcrit et qui en a fait une pièce d'orgue finalement. Alors, c'est un concerto pour deux violons, et tel qu'il l'a écrit, ça s'accorde très bien physiquement aux mains, aux pédaliers, enfin, c'est formidable quand même. Et on a un plaisir physique à le jouer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien jouer cette pièce-là. Louis Vierne, qui était organiste à Notre-Dame, a écrit la majeure partie de son œuvre pour orgue, même s'il écrit d'autres choses, même une œuvre vocale, un certain nombre de mélodies. Il écrit pas mal de mélodies sur du Verlaine. Et là, pour le coup, c'est une écriture lyrique très désinhibée. Alors que lui, à l'orgue ou au piano, est extrêmement intérieur. C'est un homme qui a beaucoup souffert, je pense. Et il était capable, dans ses mélodies, d'écrire des choses tout à fait étonnantes.
Oui. Mais disons, Chauveau a consacré une émission, Raconte-moi la musique, ici de l'émission Musique et Culture, sur Louis Vierne, la jeunesse de Louis Vierne, et ça s'est cité tout. Ah oui, c'était. Il a été aveugle toute sa vie, pratiquement.
Complètement aveugle, et c'est à 7 ans qu'il a perdu définitivement la vue, enfin l'usage de ses yeux. Il est toujours plus ou moins signé. Il a eu des malheurs sur malheurs. C'est une vie atroce. C'est pas drôle du tout, mais.
Sa musique d'orgue est totalement différente de sa musique de chambre.
Oui.
Totalement différente. Parfois, je trouve ses symphonies pour orgue, ses œuvres pour orgue un peu agressives, alors que sa musique de chambre est totalement différente. C'est une très très contemplative, très très belle, très harmonieuse.
Donc les mélodies qu'il a écrites, un peu dans l'esprit des mélodies françaises de Fauré et Duparc. C'est plus proche de Duparc. D'ailleurs, c'est sur le plan vocal tout à fait, je vous dis, désinhibé. Et une partie vocale pour des sopranes extraordinaire. Mais il faut des sopranes larges. Et... c'est assez étonnant. On imaginerait plutôt quelqu'un de rentrer. Il a écrit une pièce très originale. Pour chant et piano, ça s'appelle Les Angélus, les trois Angélus. Et j'aime beaucoup le nom du poète, c'est un pseudonyme, Le Pauvre Moine, écrit avec une orthographe moyenâgeuse, Géant le Pauvre Moine, voilà. Et un texte un peu naïf, voire un petit peu désuet, mais correspond très bien à cette musique. C'est une œuvre assez belle, qui n'est pas facile à donner, puisque on l'a faite plusieurs fois ici. Il faut un instrument assez conséquent, mais aussi un emplacement public, en quelque sorte. Donc, quand c'est fait en tribune, sur dans les paroisses qui n'ont pas d'orgue de chœur, en tout cas visible de l'assemblée, ça reste un peu, comment dire, un peu amoindri, quoi, voilà. Mais il faut un sacré chanteur quand même pour remplir la nef là. C'est pas une entre la hauteur et la longueur, c'est pas une ça ne met pas forcément des chanteurs à l'aise quoi.
Il faut du coffre comme on dit.
Oui,
une alors, intelligence, une intelligence.
Ah, il faut une intelligence plus que du coffre. Quand on dit du coffre pour un chanteur, on imagine toujours quelqu'un de fort qui va forcer, qui va muscler, etc. Pour les chanteurs, l'écueil ici est d'être en accord avec l'acoustique. Et ceux qui n'ont pas l'habitude font quelque chose qui est très bien, c'est qu'ils s'écoutent. Mais en s'écoutant, ils écoutent le retour du son qui a fait plus de 100 mètres, puisqu'il est parti au fond, il revient. Et donc, c'est quelque chose qui va traîner puisqu'on s'écoute, on rattrape le son qu'on vient de faire, etc. Quand on chante ici, il faut, et c'est assez violent à dire, mais ne pas s'écouter en quelque sorte, être sur ses propres sensations, savoir que là on fait un beau son, mais il faut se faire confiance, puisque si on fait appel à des professionnels, ils doivent quand même savoir quelle sensation donne quel son en quelque sorte, et ne pas chercher à s'écouter. Il faut s'entendre évidemment, mais ne pas chercher à s'écouter, parce que sinon tout va ralentir, etc. Et à cause de l'acoustique. Et ça, c'est assez difficile. C'est ce qui arrive à des organistes aussi qui viennent ici et qui accompagnent. Mais ils vont s'écouter, ils vont écouter leur retour, etc. Ça crée un certain malaise au départ. Quoi, voilà. Et donc, il faut du coffre. Oui, il faut de la puissance, mais il ne faut pas chercher à, comment on dirait en variété, à se déchirer. Au... voilà. Non.
Comme un ballon.
Non. D'ailleurs, si la voix est bien placée, si les sopranes avec des belles harmoniques ou autres, on peut faire des sons extrêmement doux qui passent très bien. Et d'ailleurs, sur le plan acoustique, quand on est sur la galerie en haut, et même quand on est sur la galerie là, sous le Christ qui est en majesté sur la mosaïque, et face contre le mur, et qu'on chante, le son passe de manière encore mieux que quand on est face à la nef, même si ça passe bien là, puisqu'on a le mur qui fait retour, etc. Non, là, c'est assez impressionnant. Et une chanteuse qui a des riches harmoniques peut chanter très doux. J'ai entendu des grandes cantatrices, Montserrat Caballé, il y a très longtemps, terminer une sonorité extrêmement douce avec un orchestre énorme qui jouait certes piano, mais son son était tellement riche, etc., qu'il survolait l'ensemble de manière tout à fait magique. Et c'était des moments suspendus assez incroyables, sur le plan purement technique acoustique, ce sont des réalisations fabuleuses. Mais musicalement, c'est encore plus enrichissant. Ce qui passe très bien ici, et ce qui n'est pas dans l'esprit justement du 19e siècle, ce sont les contre-ténors. Lorsque j'avais mon ensemble vocal, j'avais à la place d'une alto, un contre-ténor. Voilà. Le contre-ténor, c'est une voix aiguë pour un homme. Donc, il y a ce côté aigu, donc un peu soliste, un peu dynamique, qui passe très bien. Et les solos d'alto étaient chantés par un contre-ténor, et ça remplissait très très bien, et ça pouvait faire des sons qui flottaient, même des sons doucement. On a eu deux excellents contre-ténors ici. Et je me souviens de certains solos d'un compositeur qui s'appelait Nibel dans des messes, la messe Sainte-Jeanne d'Arc. Et le son passait remarquablement et ça le rentrait doucement derrière. Il apparaissait à un moment donné, etc. On peut avoir des couleurs très très belles avec des sons très doucement. Il faut effectivement du coffre, il faut maîtriser son instrument. C'est tout. Mais ce n'est pas. On a eu parfois des chanteurs remplaçants, etc., qui avaient du son, mais qui n'avaient que ça, et ça ne suffit pas. Enfin, voilà. Et c'est assez délicat à contrôler chez les chanteurs. Et l'avantage des chanteurs, des contre-ténors, c'est qu'ils viennent du monde du baroque, où on a un très grand respect pour l'auteur et pour le texte. L'ancienne école de chant était souvent axée sur la puissance de la voix et sur la voix elle-même, et la musique, la partition écrite n'était en gros que le support destiné à faire briller le niveau vocal du chanteur.
Vous venez d'entendre des extraits du Requiem de Gabriel Fauré sous la direction de Geoffrey Faux en concert à l'église de la Madeleine, le concerto en la mineur BWV 593 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Karl Richter à l'orgue, le Angelus au soir de Louis Vierne, interprété par Iris Anne Descœurt, et la cantate BWV 170 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Damien Guillon, contralto avec l'ensemble Le Banquet Céleste. Je remercie pour cette soirée musicale Eric, Radio Courtoisie, toute l'équipe de la Madeleine, Monseigneur Chauvet, Michel Geoffroy. Je vous retrouve la semaine prochaine afin de vous faire visiter le Grand Orgue avec François-Henri Houbard, titulaire du Grand Orgue de la Madeleine, et nous parlerons de cinéma avec lui. C'est presque une blague et dans chaque blague, il y a toujours une part de vérité. J'ai été enchantée de passer cette soirée en votre compagnie.